On va se tourner ensemble dans l'évangile de Luc. Alors, c'est vrai que c'est un peu des messages de Pâques, un mois après Pâques, mais on a presque terminé ce bel évangile qui nous rappelle que Jésus est venu pour guérir ceux qui étaient malades, ce qui était perdu. Donc nous sommes dans Luc, chapitre 23, l'avant-dernier chapitre, et nous allons lire à partir du verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient, celles-ci se frappaient la poitrine et se lamentait sur lui. Jésus se tourna vers elle et dit « Fille de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici des jours viendront où l'on dira « Heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté et qui n'ont pas allaité. » Alors on se mettra à dire aux montagnes « Tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. » Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On a évoqué dans les chapitres, les versets précédents, le simulacre de justice qui s'est produit devant les chefs religieux qui étaient ceux qui voulaient faire mourir Jésus. Il a été conduit ensuite devant l'autorité romaine, devant Pilate. Pilate, le procurateur romain, celui qui était en quelque sorte le représentant, le plus haut représentant de l'Empire romain qui occupait la Palestine à l'époque. Et puis Pilate qui ne voyait pas de quoi accuser Jésus de la peine de mort, l'avait envoyé devant le représentant de... plutôt la personne qui avait le pouvoir politique en Galilée, qui était Hérode Antipas, de la famille d'Hérode le Grand. Et lui aussi, malgré son peu d'intérêt, avait toujours été curieux de Jésus. C'est lui qui avait fait assassiner Jean-Baptiste. Lui aussi ne trouvait pas vraiment de raison de condamner à mort Jésus. Il l'avait renvoyé devant Pilate, et là c'était devant la pression de la foule et devant la pression des chefs religieux qui manipulaient la foule que Pilate s'était lavé les mains et avait décidé de laisser partir à la croix, partir à la mort Jésus-Christ. On n'a pas évoqué la dernière fois, on a manqué de temps, mais la femme même de Pilate avait dit qu'elle avait eu des rêves et que lui ne devait surtout pas, il ne devait rien avoir avec cet homme, mais son inaction ou le fait qu'il se soit lavé les mains de la situation, ça a été la raison pour laquelle Jésus a pu légalement partir à la mort. Une chose d'une petite parenthèse, c'est que la mort de Jésus était prédite, était prophétisée dans l'Ancien Testament, notamment dans le psaume 22. Il y a des passages qui parlent d'une mort par... Et les symptômes qui sont décrits, ça décrit la mort par crucifixion. Et ce qui est remarquable, c'est de réaliser qu'en fait... Jésus aujourd'hui n'aurait pas pu venir mourir légalement, entre guillemets, sur une croix. C'était impossible parce qu'il y a beaucoup de pays où il n'y a plus de mort par de peine de mort. Et il y a aussi aucun pays en ce moment qui utilise la crucifixion comme un moyen légal de mise à mort. On sait maintenant par la presse qu'en Indonésie, c'est le peloton d'exécution pour ce Français qui est menacé d'être mis à mort pour ce trafic, soi-disant trafic de drogue. Dans certains pays ou dans certains États de l'Amérique, c'est la peine par injection de produits mortels. Dans d'autres, c'est encore la chaise électrique. Et le psaume 22 ne décrit pas une mise à mort par chaise électrique. Il décrit une mise à mort par crucifixion. Et à l'époque où le psaume 22 a été écrit, c'était inconnu en Israël. Le roi David, ce qu'il connaissait, c'était la peine de mort par lapidation. On jetait des pierres sur une personne jusqu'à ce qu'elle en décède, jusqu'à ce qu'elle en meure. Et donc on voit là aussi que c'est Dieu qui contrôle l'histoire. Ce n'est pas des choses qui se passent au hasard, mauvais moment, mauvais endroit. Non, tout ça, c'était prévu. Et là, Jésus, qui a déjà été le procurateur Ponce Pilate, s'était dit qu'il allait le relâcher, mais que pour faire bonne mesure, il serait fouetté, qu'il allait subir une punition corporelle et qu'après, il pourrait le relâcher. Non seulement Jésus, sous la pression de la foule, a été d'abord battu de verges, fouetté, avec des fouets qui avaient des bouts d'os ou de métal à l'extrémité des lanières en cuir. Et ça, c'était destiné à affaiblir le supplicié. C'était terrible, ça le déchirait son dos en lambeaux, ça atteignait les muscles. Et donc, il était grandement affaibli, il avait perdu beaucoup de sang. Et il se trouve qu'il n'avait pas donné l'impression, d'après les récits, qu'il n'était pas en mesure de porter lui-même sa croix. Alors il y a toujours un débat de savoir si sa croix, c'était juste la portion horizontale, ce que les latins, les romains appelaient le patibulum. Patibulum, c'était l'endroit, ça veut dire l'endroit où l'on expose quelqu'un. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on était cloué sur cette partie, on était exposé à la vindicte publique, on montrait à tous les gens qui étaient alentour ce qu'il en coûtait d'être coupable vis-à-vis de la loi romaine, même si dans ce cas c'était en fait juste sur la raison d'un blasphème que les chefs religieux faisaient mourir Jésus. Et ce patibulum, peut-être que ça vous rappelle le mot patibulaire, en fait c'est devenu étymologiquement, c'est devenu le mot qui se référait à la peine de mort, au gibet du Moyen-Âge. Et en principe, les gens qu'on faisait mourir ainsi, c'est des gens qui n'étaient pas passés chez l'esthéticienne. C'était des gens qui étaient barbus, qui étaient qui avaient les cheveux en désordre, qui souvent avaient des hommes qui avaient des vies rudes. Donc ils avaient une mine inquiétante, une mine patibulaire. J'aime bien les étymologies pour savoir replacer les mots dans leur contexte. Et même Jésus n'avait rien qui le faisait remarquer, nous dit le prophète Ésaïe. Il n'y avait rien de spécial, au contraire, lui aussi avait été battu et son visage n'était pas beau à voir. Et comme il ne pouvait pas porter sa croix, c'était la coutume. Les Romains avaient tout pouvoir, un peu comme les occupants nazis avaient tout pouvoir pendant la Deuxième Guerre mondiale dans les pays occupés comme la France. Ils pouvaient désigner quelqu'un et leur ordonner tout de suite de faire quelque chose. Et si la personne refusait, dans ce cas, si la personne avait refusé d'aider Jésus à prendre sa croix, et on pense que c'était un morceau de bois donc d'une longueur de 2 mètres, assez mal équarri, avec des échardes, une poutre grossière qui pouvait peser peut-être 50, 75 kilos. Et donc ce certain Simon de Cyrène, alors ce n'était pas le fils d'un poisson, c'est Cyrène, c'est Y. Et Cyrène, en fait, ça désigne la ville d'Afrique du Nord à l'époque, qui est aujourd'hui Tripoli, où c'était une ville qui est maintenant à l'emplacement de Tripoli, en Libye. Et c'est intéressant parce que, encore une fois, tous ces détails qui nous sont donnés, tout est donné pour une raison. Et la raison, c'est en fait que, quand on compare avec les autres évangiles, on voit que ce Simon de Cyrène, Marc nous dit, dans le chapitre 15 où il décrit la crucifixion, verset 21, que c'était le père de Rufus et d'Alexandre. Et donc si on indique cette précision, c'est que Rufus et Alexandre, ça voulait dire quelque chose pour les lecteurs de Marc, les lecteurs des évangiles. Il en est question aussi dans Romains 6, 13. Paul connaissait aussi ces personnes. Il dit « Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur, et sa mère qui est aussi la mienne. » Donc on pense qu'il s'agit là peut-être du fils de Simon de Cyrène qui a porté la croix de Jésus, dont le frère était Alexandre, selon Marc 15, 21. Et Paul dit que la femme de Simon, donc la mère de Rufus, était comme une mère pour lui. Intéressant de voir, on dit souvent en France, aujourd'hui encore, que le monde évangélique est petit. Là-bas, le monde évangélique, à l'époque de Jésus et après sa mort, était aussi assez petit. Les gens se connaissaient. Et c'est intéressant de voir que cet homme, qui apparemment n'était pas croyant, qui était peut-être, il revenait des champs, ça voulait dire peut-être qu'il était, il avait déménagé à Jérusalem, il y avait assez de gens de Cyrène à Jérusalem pour qu'il y ait une synagogue dont il est question dans le livre des Actes. Et dans le livre des Actes, il est aussi question de ces gens de Cyrène, lorsque le futur Paul, qui s'appelait encore Saül, on sait qu'il a vécu à Antioche, et il est question au verset, chapitre 11 du livre des Actes, verset 20. On va lire à partir du verset 19. « Ceux qui avaient été dispersés à cause de la persécution survenue après la mort d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, à Chypre et à Antioche. Ils n'annonçaient la parole à personne d'autre qu'aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, venus à Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. » Et donc, on voit on peut suivre un peu comme ça, c'est pas. Il faut rechercher un peu, il faut faire des rapprochements, mais il est question de cette ville, de Cyrène, donc de Tripoli, en Libye, d'Afrique du Nord, où il y avait des gens qui ont été. Il y avait cet homme qui avait été touché par la foi juive et qui était venu s'installer à Jérusalem, on le pense. Et de là, l'église de Cyrène, il y avait une église à Cyrène qui avait envoyé des missionnaires qui avaient été touchés les Grecs, qui avaient préparé le terrain à Antioche, où Paul et Barnabas s'étaient trouvés. Et on voit comment la chaîne de transmission de l'évangile se met en marche. C'est toujours encourageant de se dire d'où on vient, notre relation avec Jésus. Et moi, par exemple, c'est par l'intermédiaire de mon beau-frère Mike Sloan, qui est à Katmandou, peut-être maintenant aujourd'hui, et de voir comment le message a été transmis jusqu'à moi. Et comment est-ce que moi, je me retourne à mon tour pour le faire passer et toucher d'autres personnes. Mike, avant d'être chrétien, c'est une voisine qui avait invité sa femme pour boire une tasse de café et qui lui avait parlé de l'évangile. Et en faisant cela, cette femme ne savait pas qu'elle allait déclenché une réaction qui allait emmener des missionnaires au Mexique, en Bolivie, en Éthiopie, en France, au Népal. Et on n'est jamais... C'est l'aventure de la foi. Paul et Elisabeth, là, sont en train de serrer les dents parce qu'ils vont emmener 32 enfants à la montagne. Mais qui peut dire que parmi ces enfants, il n'y a pas quelqu'un qui va aller toucher d'autres parties du monde ? Il y a quelques années, on avait eu la joie de voir des jeunes qu'ils avaient eu l'occasion de présenter au Seigneur par leur ministère à Marseille. Et ils étaient passés à Nice il y a une dizaine d'années peut-être maintenant. Et certains étaient en école biblique. C'était des jeunes qui avaient pris la foi. Et on a tendance à se laisser enfermer par notre idée qu'on sert à rien, qu'on est trop petit pour faire une différence. L'idée, ce n'est pas d'être une grande prédicateur, un grand évangéliste. L'idée, c'est de faire la part que le Seigneur nous donne de faire. Et ça peut être simplement d'accueillir quelqu'un, ça peut être simplement d'aider des enfants à être présents pour entendre parler de Jésus. Mais là, il y a une très belle histoire qui est sous-jacente à la croix. Cet homme est venu, il a porté la croix, Jésus nous dit que si on veut être son disciple, on doit le suivre et porter notre croix. Porter sa croix en quelque sorte. Et ça, c'est un exemple. Et on voit le fruit qui est venu de l'obéissance forcée, parce que s'il n'avait pas obéi, les Romains pourraient lui dire « Tu refuses, on va mettre une autre croix et tu vas faire partie de la fournée. » Et il portait cette croix, ce Simon de Cyrène. Donc on voit des vignettes, un peu des portraits de différents groupes. Il y a beaucoup de monde qui le suit, une grande multitude de peuple. Il y a des femmes aussi qui se frappent la poitrine et qui se lamentaient sur lui. On pense que ça, c'est pas nécessairement le groupe des femmes qui le connaissaient, Marie, sa maman, et Marie de Madeleine, Marie-Madeleine et les autres, le groupe très rapproché qui va être là qui va rester à la croix, qui vont vraiment veiller sur Jésus. Mais c'était sans doute des pleureuses professionnelles. Et c'était la coutume. Et il n'y a pas longtemps encore, je sais que je vous l'ai peut-être déjà dit, je me répète des fois, ma mère m'avait dit que quand elle était jeune mariée, elle avait vécu en Corse et qu'il y avait justement il y avait encore des pleureuses professionnelles. Et aux enterrements, elle marchait en disant « Oh, Emilio !» Et c'était quelque chose qu'il fallait faire. Il fallait que quelqu'un qui parte soit pleuré, mais bien pleuré. Pas juste une lame essuyée, mais vraiment que ce soit démonstratif, qu'il y ait une reconnaissance publique. Et sans doute, elles avaient de la sympathie aussi pour Jésus. Parce qu'il y a une chose que peut-être vous n'avez jamais remarquée, une chose qu'on ne vous a peut-être jamais dit, mesdames, c'est que nulle part dans le Nouveau Testament, il y a de l'hostilité venant de la part d'une femme envers Jésus. Quand on prend toute la Bible, on peut citer les Jézabel, etc. Mais le problème que Jésus a rencontré, c'était avec des hommes. Il y a quelque chose en lui qui est sollicité, de l'amour, une reconnaissance, que son humilité, sa gentillesse, des choses auxquelles les femmes doivent être plus sensibles que les hommes. Mais sachez que jamais il est question d'hostilité de la part d'une femme dans le Nouveau Testament envers Jésus. Je ne savais pas, c'est en écoutant un message que quelqu'un faisait cette remarque, je dis, ouais, c'est vrai en fait. Elles sont toujours là pour l'aider ou pour le pleurer. Donc il y avait ce groupe, et Jésus a cette remarque étonnante, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. Et puis il cite le prophète Osée, des paroles qui seront reprises dans Apocalypse 9, 6. Et l'idée, c'est que c'est une prophétie, en fait, sur la destruction qui va intervenir à Jérusalem à partir de l'an 66 et qui va être terminée en l'an 70, qui va être une persécution terrible de la part des Romains sur la ville de Jérusalem qui va être détruite, le temple va être détruit. Et il dit quelque chose d'étonnant, « Heureuses les stériles ». C'est un oxymore, c'est impossible. Dans toute la Bible, être stérile, c'était une disgrâce. La mère de Jean-Baptiste, Élisabeth, disait « Il a mis fin à ma disgrâce ». La maman de Samuel, Anna, était elle aussi, elle vivait dans la honte, dans le malheur de ne pas avoir d'enfant avant que le Seigneur ne lui accorde d'être enceinte de Samuel. Heureuses celles qui n'ont pas enfanté, qui n'ont pas allaité. Et là, on aura tellement envie de mourir qu'on dira aux collines, tombez sur nous, couvrez-nous. Et puis il a cette prophétie, puis après un proverbe, il utilise un proverbe. Si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Alors on peut se dire, c'est quoi ça? Apparemment c'était un proverbe qui voulait dire, si on fait ça pour quelque chose, à plus forte raison, ça va être plus important pour quelque chose et son contraire. L'idée c'était que si on fait ça pour un innocent, si on punit un innocent de la sorte, s'il y a une telle souffrance, imaginez la souffrance qui va être réservée à Israël et donc à vous, les femmes qui pleurez sur moi. Et c'est admirable de voir qu'en fait, malgré sa souffrance, son dos en lambeaux, l'idée qu'il allait être, il allait devenir péché pour nous, Jésus a encore la force de penser aux autres. Pense aux autres. Et j'ai été bouleversé encore une fois hier quand j'ai reçu ce mail de Mike qui est dans une ville où il y a un tremblement de terre, où il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau courante, il fait froid, c'était la nuit qui approchait, et lui, son souci, c'était encore de parler de Jésus à ceux qui étaient dans le malheur. Jésus, c'est le meilleur exemple, bien sûr. Il est là, il sait qu'il va souffrir, mais il prie pour ces femmes, il leur dit, pleurez pour vous, ne pleurez pas pour moi. Verset 32, on conduisait en même temps deux malfaiteurs qu'on allait faire mourir avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Quant au chef, il raillait Jésus en disant « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, élu de Dieu. » Les soldats aussi s'approchèrent pour se moquer de lui et lui présenter du vinaigre, en disant « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait au-dessus de lui cette inscription « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendu en croix blasphémait contre lui « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et dit, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal, et il dit, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Il était déjà à la 6e heure environ, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, à la vue de ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Réellement, cet homme était juste. » Et les foules qui étaient venues assister à cette scène, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent en se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus, les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée, se tenaient à distance et regardaient ce qui se passait. Là encore, des prophéties s'accomplissent. Il sera compté parmi des malfaiteurs, c'est Ésaïe 53, 12, la grande prophétie messianique du prophète Ésaïe, Ésaïe 53. Il se retrouve entre deux malfaiteurs et ils vont à un endroit qui s'appelle le crâne. Le crâne, en latin calvario, d'où le mot calvaire en français. En araméen, c'est Golgotha, mais ça veut dire simplement le crâne. Et à Jérusalem, quand on va en visite aujourd'hui encore, on peut voir un endroit, et sans une certitude absolue, on peut penser que c'est vraiment l'endroit où Jésus a été crucifié, parce que les rochers, les trous, les gros trous forment un peu l'image d'un crâne, comme les deux orbites et la mâchoire. Et c'est, on pense pour beaucoup que c'est l'endroit même. Et donc, c'est, au lieu de s'appeler Calvary Chapel, on pourrait s'appeler la chapelle du crâne. Si vous voulez qu'on change de nom, on peut voir ça en prochain AG. J'ai un ami, pasteur, pas un ami, mais un pasteur que je connais, qui a une église qui s'appelle l'église du crâne, Skull Church. Et le symbole plaît beaucoup aux jeunes. C'est très gothique, quoi, un crâne. Il n'y a pas de honte à se réclamer du crâne. Et on a déjà parlé du sermon sur la croix, les sept paroles prononcées par Jésus alors qu'il est sur la croix. Pour le jour de Pâques de cette année, on a, si vous voulez entendre le message, c'est en recoupant les différents évangiles qu'on arrive à sept déclarations de Jésus. Ici, on en a trois, et là, il y a la première, c'est « Père, pardonne-le, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » La question, c'est savoir qui est ces gens à qui il demande le Père de pardonner. Est-ce que ce sont simplement les soldats romains qui sont en train de le crucifier? Est-ce que ce sont les chefs juifs qui l'ont fait crucifier? Est-ce que c'est l'autorité romaine, l'autorité juive qui permettent que ça se passe? Est-ce que c'est tous les hommes? Est-ce que c'est... Mais c'est vrai que c'est un moment fantastique. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et aujourd'hui encore, l'Église persécutée peut demander la même chose à Dieu. Les Libyens, les chrétiens d'Orient, mis à mort par Daesh et d'autres terroristes et d'autres groupes impies, peuvent faire la même demande et toucher beaucoup de monde. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. D'autres prophéties sont accomplies, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ça fait partie des prophéties qu'on ne peut pas forcer, dont on ne peut pas forcer la réalisation. Certains disent, oh, c'est facile, il était prédit, qu'il prophétisait qu'il allait entrer dans la ville sur un ânon. Bon, ben, il va chercher à un petit âne, à louer un âne, le magasin à l'entrée de la ville, et puis il vient. Mais ça, c'est des prophéties. Le fait qu'il se retrouve entre des malfaiteurs, qu'il n'est pas mort seul sur la croix, le fait qu'il ait ses vêtements sont tirés au sort, et puis il doit subir les moqueries, il doit subir les insultes. Et on a tendance, nous les hommes, à être forts pour insulter ou se moquer des gens qui sont à terre. Lorsque les gens souffrent, on a beau fait de se moquer d'eux parce qu'ils ne sont pas en mesure de répliquer. Sauf que là, bien sûr, Jésus aurait pu réagir violemment, mais ce n'était pas sa vision des choses. Il était venu là pour mourir, pour payer pour nos péchés. Et donc, on voit le peuple qui regarde, les chefs religieux qui se moquent de lui en disant « mais il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même ». Et s'il est vraiment le Christ élu de Dieu, les soldats qui ne connaissaient pas trop la situation, mais pour qui un mort de plus, ce n'était pas grand-chose, ils se moquent, ils l'appellent le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Ils lui présentent du vinaigre, alors on pense que c'est peut-être pour vraiment se moquer de lui, si c'était un vinaigre imbuvable. Il y avait, quand on lit un peu sur cette époque, on voit qu'il y avait un vinaigre qui était pour faire une genre de vinaigrette, mais il y avait aussi un vin qui pouvait être un peu aigre et qui pouvait désaltérer. Donc je ne sais pas si c'était de la compassion, on a l'impression que c'est plutôt dans le sens de rajouter la méchanceté à l'insulte. Et puis, dans un autre évangile, il est dit « j'ai soif » et qu'il but de ce vinaigre. Et puis, il y avait au-dessus de cette inscription « celui-ci est le roi des Juifs ». Alors, il y a beaucoup de débats. Les témoins de Jéhovah prétendent justement que c'était simplement un poteau, qu'il n'y avait pas de barre, il n'y avait pas de patibulum. On a retrouvé en 1981 des ossements de quelqu'un qui avait été crucifié, qui a permis de savoir un peu de façon plus scientifique la position. Les bras étaient tendus, des clous passés non pas dans la main mais dans les poignets, ça tenait mieux et en plus ça faisait des tétanisations terribles qui faisaient que les membres, les mains se refermaient automatiquement dans une agonie indescriptible. Et surtout qu'il y avait bien un morceau plus haut que les autres, parce qu'il y avait une inscription placée au-dessus. S'il avait été juste sur un espèce de T, la croix en taux dont on parle des fois, ça n'aurait pas été possible. Donc il y a plein de petits détails comme ça qui sont... Et il y en a une foison parce qu'il y a quatre descriptions de la même crucifixion qui permettent d'avoir une idée. Et ce qui est remarquable, c'est que aucun des évangélistes ne donne de grands détails sur la crucifixion elle-même. On insiste beaucoup lorsque les producteurs aujourd'hui font des films sur la mort de Jésus, on voit tous les détails, la main, le grand clou, le gros marteau. Et ils ont une description très succincte. Tout ce qu'ils disent, c'est « et ils le crucifièrent ». Probablement une raison, c'est que c'était quelque chose à l'époque qui était connu, une mort qui était connue en Palestine, donc il n'y avait pas besoin de s'appesantir. On savait ce que ça représentait comme souffrance et comme détail. Et puis une autre, c'est en fait, les évangélistes inspirés par l'Esprit Saint ne veulent pas insister sur la souffrance physique qui était terrible et qui était réelle, mais qui n'était pas unique. Les deux malfaiteurs ont subi le même genre de souffrance, mais c'était plus la souffrance spirituelle d'être séparé du Père et de devenir péché pour l'humanité, d'être à l'opposé de la perfection, parfaite moralité, amour, blancheur, éclat de Dieu, et de prendre la noirceur, le cloaque de tous les péchés de la terre. Et ça, c'était une souffrance spirituelle encore à une autre puissance de souffrance. C'était surtout sur cela que Jésus disait « Si cette coupe peut passer mes lèvres, Seigneur, fais qu'elle passe mes lèvres. » Et donc, on voit aussi la réaction des deux malfaiteurs. Il y en a un qui continue de maudire, de se moquer, de blasphémer, plein de certitude que ce n'est qu'un pauvre type qui est en train de mourir sur la croix, que c'est pas le roi des Juifs, c'est pas Dieu, c'est pas le Fils de Dieu, c'est pas le Messie, c'est pas le Christ. Et par contre, l'autre est touché par la grâce. Et c'est intéressant de voir que deux personnes dans des situations similaires L'un va ouvrir son cœur et l'autre va continuer de maudire Jésus. Et des fois, on est étonné dans nos familles, chez nos amis. On leur parle, on a été touché par cette grâce de reconnaître que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, notre Seigneur et Sauveur. Et la personne qui a le même genre d'information, qui a la même circonstance, continue d'être complètement fermée. C'est parce que c'est l'éclairage du Saint-Esprit qui va ouvrir votre cœur. Et lui, tout ce qu'il fait, c'est de mettre sa confiance en Dieu. Il fait remarquer à l'autre que cet homme était un homme juste. Il a vu la façon dont il a agi, dont il réagit, dont il prie. Il était peut-être en mesure d'entendre la prière, pardonne-leur ce qu'ils font. Et il est convaincu. Et il demande à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui dit, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alors certains disent, mais c'est quel paradis? En fait, je pense que, on a vu en étudiant Luc 16 qu'il y avait un endroit dont il était parlé, dont il était question, quand il est question de Lazare et de l'homme riche, il y avait le sein d'Abraham et l'endroit où ceux qui mouraient en ayant confiance en Jésus ou en ayant confiance en la promesse qu'il y aurait un Messie se retrouvaient. Puis il y avait de l'autre côté, il y avait l'abîme où se trouvait l'homme riche. Et il est dit dans trois passages dans la Bible que pendant le moment où Jésus a été crucifié, il est descendu dans les entrailles de la terre et il a ramené avec lui toute une bande de captifs. Et on peut penser que c'est l'endroit qui était appelé le sein d'Abraham, c'était aussi l'endroit qu'on appelait le paradis. Mais une fois qu'on était là, on savait qu'on était toujours avec Jésus. Jésus va revenir, il va revenir avec les nuées, venir chercher son Église, mais c'est le meilleur endroit. Et donc Jésus lui dit, tu es sauvé. Tu es sauvé simplement parce que tu as cru que j'étais le Fils de Dieu. Et ça, c'est la simplicité du salut. C'est remarquable parce qu'on en parlait cette semaine, on a toujours l'impression que c'est bien, il faut avoir la foi en Christ, mais il faut montrer des œuvres. Il faut donner il faut aider les autres, il faut donner de l'amour, il faut donner de l'argent, il faut vivre sans pas vivre dans le péché ouvert, etc. Lui, ce qu'il a sauvé, c'est pas de faire toutes ces choses. Encore une fois, on est sauvé par la foi seulement. Et là, on voit. Alors, quand il est dit, c'était la sixième heure, c'était midi. Le jour commençait à 6 heures du matin pour les Juifs à l'époque. C'est comme ça qu'on comptait. Et puis, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Alors, certains disent, oui, il y a dû avoir une éclipse. En fait, c'était pas possible parce que la Pâque était toujours célébrée. La troisième pleine lune après le solstice d'hiver. Donc ça veut dire qu'en fait la terre était la lune ne pouvait il pouvait pas y avoir d'éclipse provoquée par le passage de la terre ou de la lune entre le soleil. Donc c'était vraiment une obscurité surnaturelle. Un peu comme il y avait une grande lumière qui s'était faite le jour de la naissance de Christ. Là c'est l'inverse, c'est une obscurité qu'il y a quelque chose de terrible qui se passe. Le voile du temple est déchiré par le milieu. Une autre description nous dit que c'est déchiré depuis le haut jusqu'en bas, comme si c'est Dieu qui ouvre l'accès à l'intimité avec Dieu qui était réservé au grand prêtre une fois l'an dans le Saint des Saints, dans le temple. Nous avons cet accès à Dieu tout le temps. Alléluia. Tout à l'heure, il y avait Samuel qui était dans l'écharpe que sa maman porte autour d'elle pour le tenir près de son sein. Et je disais, en fait, on peut tous se réfugier en Jésus. On peut tous se réfugier comme ça auprès de Dieu. Il est prêt à nous accueillir si on le veut. Si on vient à lui, il ne nous rejette pas. Donc le centenier, donc c'était le chef de la cohorte romaine, des cinq hommes, des quatre hommes qui avaient mis Jésus en croix, réalise que oui, c'était vraiment injuste. C'est une façon, je crois, peut-être qu'il a sans doute été sauvé. Les femmes qu'il avait accompagnées depuis la Galilée, c'était le cercle rapproché avec Marie. Puis on va voir verset 50, on va terminer avec ça. Il y avait un membre du conseil du nom de Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision ou aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans une tombe taillée dans le roc où personne n'avait été encore mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes, celles-là même qui étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le tombeau et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et s'en retournèrent pour préparer les aromates et des parfums. Puis, pendant le sabbat, elles observèrent le repos selon le commandement. Qui fait partie des 10 commandements qu'on trouve dans l'Exode 20. Donc là, c'est la descente de croix. Cet homme, Joseph d'Arimathée, c'était sans doute un des membres du Sanhédrin, mais tous les pharisiens n'étaient pas des vauriens. On connaît Nicodème, qui allait voir Jésus la nuit, en cachette, mais qui avait senti qu'il y avait quelque chose de spécial en lui, et à qui Jésus avait expliqué qu'il fallait naître d'en haut, qu'il fallait naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Donc il y avait parmi les membres du conseil, le Sanhédrin, il y avait quelques personnes qui étaient favorables à Jésus. Et ce qui est admirable, c'est qu'on les voit prendre courage et faire se dévoiler au grand jour. De secrets qu'ils étaient, là, celui-ci va aller demander aux représentants de l'autorité romaine, Pilate, il va demander le corps de Jésus. Et ce qui, entre parenthèses, nous montre bien que Jésus n'était pas évanoui. Sinon, les soldats romains n'auraient pas relâché quelqu'un qui n'était pas encore mort. Malheureusement, ils connaissaient bien la mort pour la vivre au quotidien. Et en mettant les autres à mort, en évitant de se faire tuer, et ils savaient que Jésus était vraiment mort. Parce que certains ont contesté la résurrection en disant qu'en fait, il s'était simplement évanoui, mais que l'air frais de la caverne, de la grotte, l'avait remis en forme, l'avait remis sur pied. On verra quelques-unes de ces explications stupides la semaine prochaine. Il était vraiment mort, et là, les femmes qui... sa mère, et il est question d'une... la tombe taillée dans le roc, et là encore, pas loin de l'endroit où on pense que se trouvait le mont Golgotha, la colline du crâne, il y a une tombe qui a été taillée dans le roc, et on peut rentrer et voir que le tombeau est vide. Et beaucoup, il y a des vieilles traditions avec l'Église orthodoxe, l'Église catholique, l'Église des traditionnelles qui ont d'autres lieux. Le problème, c'est que ces lieux, dès qu'ils avaient un endroit, ils construisaient une église dessus, donc on ne peut plus rien voir. Et par contre, ces endroits correspondent beaucoup aux descriptions qu'on lit. C'est pas vital, mais c'est intéressant de penser que cette tombe que je vois, c'est peut-être bien là où Jésus a été déposé, mort. Voilà, on va s'arrêter là, prions ensemble. Seigneur, merci pour ces récits qui montrent l'historicité, la vérité de ton amour, parce que tu es venu jusqu'à la croix, Seigneur. Tu t'es humilié, tu as subi la mort la plus infâme, et tu l'as fait volontairement, Seigneur. Aide notre incrédulité, Seigneur. Merci de nous parler. On voit que ceux qui étaient proches, qui ont pu voir ce qui se passait, n'ont pas manqué, si leur cœur était ouvert, d'être touché par ton amour et ton salut, Seigneur. On te remercie pour cet homme de Tripoli, Simon de Tripoli, de Cyrène, Seigneur, qui a commencé, qui est venu à la foi en toi en portant ta croix, Seigneur, qui a permis qu'une église voie le jour à Tripoli, Seigneur, et que cette Église envoie des missionnaires jusqu'à Antioche, Seigneur. Merci de nous rappeler l'amour des femmes qui entouraient Jésus, même au-delà du cercle rapproché de sa mère et de ses amis. On te remercie aussi pour nous rappeler la simplicité de la foi et du salut, Seigneur. Ce malfaiteur, il a simplement cru à ce que tu disais, il a vu qui tu étais, il a vu comment tu agissais. Et Seigneur, merci pour l'exemple de prière pour tes ennemis. Ça nous dépasse tellement, Seigneur. On pense à à nos frères et sœurs persécutés, martyrisés, décapités, dont les enfants sont exécutés aussi, Seigneur. Et on n'imagine pas qu'on puisse prier, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et pourtant, c'est ce que tu as prié, Seigneur, et c'est ce que tu veux que nous prions. Aide-nous à faire de ces ennemis des amis de toi, Seigneur. Aide-nous à leur parler de toi. Et Seigneur, merci pour l'exemple de cette église de Cyrène, Seigneur. On sait pas on sait où ça commence, mais on ne sait pas où tu peux bénir et où tu peux faire que ça continue de toucher et sauver des âmes humaines, Seigneur. Seigneur, je prie pour que nous réalisions tous que même si les circonstances qui nous entourent sont gigantesques, énormes, l'adversité est terrible, mais Seigneur, tu es encore plus grand que ça. Sois béni, parle-nous, Seigneur, touche nos cœurs, aide-nous à te suivre, Seigneur, à prendre notre croix et à te suivre. Que ces paroles, Seigneur, résonnent dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.